30. L'hostilité entre l'homme et Satan. Je mettrai de l'hostilité entre toi et la femme, entre ta descendance et sa descendance. Celle-ci t'écrasera la tête et tu lui mordras le talon. Cette sentence divine, prononcée contre Satan après la chute de l'homme, constituait aussi une prophétie qui englobe tous les siècles de l'histoire jusqu'à la fin des temps et préfigure le grand conflit dans lequel devaient être engagées toutes les races humaines qui allaient vivre sur la terre. Dieu avait déclaré « Je mettrai de l'hostilité ». Cette hostilité n'est pas naturelle. Lorsque l'homme transgressa la loi divine, sa nature se corrompit et il se trouva en accord avec Satan. Il n'existe aucune animosité naturelle entre l'homme pécheur et l'initiateur du péché. Tous deux sont devenus mauvais par une apostasie. L'apostat n'est en repos que s'il réussit à gagner la sympathie et le soutien des autres en les poussant à suivre son exemple. C'est pour cette raison que les anges déchus et les hommes méchants s'unissent en un partenariat désespéré. Si Dieu ne s'était pas spécialement interposé, Satan et l'homme auraient conclu une alliance contre le ciel, et, au lieu d'entretenir l'hostilité contre Satan, toute la famille humaine serait unie contre Dieu. Satan a tenté l'homme pour qu'il pêche, comme il avait amené les anges à rébellion, pour trouver ainsi des partenaires dans sa guerre contre le ciel. Il n'existait aucune dissension entre lui-même et les anges déchus en ce qui concerne leur haine envers le Christ. Alors qu'il y avait discorde sur tous les autres points, ils étaient fermement unis dans leur opposition contre l'autorité du Maître de l'univers. Mais, lorsque Satan entendit prononcer cette déclaration annonçant qu'il existerait une hostilité entre lui-même et la femme, et entre sa descendance et celle de la femme, il sut que ses efforts pour corrompre la nature humaine seraient limités, et que, par certains moyens, l'homme serait rendu capable de résister à sa puissance. L'hostilité de Satan s'est manifestée contre la race humaine qui, par l'intermédiaire du Christ, est devenue l'objet de l'amour et de la miséricorde de Dieu. Satan désire contrecarrer le plan divin pour la rédemption de l'homme et jeter le discrédit sur Dieu en défigurant et en souillant son œuvre. Il voulait introduire le chagrin dans le ciel et remplir la terre de souffrance et de désolation. Ensuite, il montrerait du doigt tous ses maux, en prétendant qu'ils sont la conséquence de la création de l'homme par Dieu. C'est la grâce implantée par le Christ dans l'âme qui fait naître chez l'homme l'hostilité contre Satan. Sans cette grâce qui convertit et cette puissance qui régénère, l'homme demeurerait captif de Satan comme un serviteur docile, toujours prêt à exécuter les ordres de ce dernier. Mais le nouveau principe implanté dans l'âme crée un conflit là où, jusqu'à présent, avait régné la paix. La puissance communiquée par le Christ rend l'homme capable de résister aux tyrans usurpateurs. Quiconque hait le péché au lieu de l'aimer, quiconque résiste aux passions qui ont régné en lui et les surmonte, démontre la présence d'un principe qui provient tout entier d'en haut. L'antagonisme qui existe entre l'esprit du Christ et l'esprit de Satan s'est révélé de la manière la plus frappante dans l'accueil que le monde a réservé à Jésus. Ce n'est pas tellement parce qu'il parut sans richesse, ni pompe ou grandeur terrestre, que les Juifs furent amenés à le rejeter. Ils se rendirent compte qu'il possédait un pouvoir compensant largement le manque de ses avantages extérieurs. Mais la pureté et la sainteté du Christ déchaînèrent contre lui la haine des impies. Sa vie d'abnégation et de consécration sans péché constituait un reproche perpétuel pour ce peuple fier et sensuel. C'est ce qui provoqua cette hostilité contre le Fils de Dieu. Satan et ses anges méchants s'unirent aux hommes méchants. Toutes les énergies de l'apostasie conspirèrent contre le champion de la vérité. Les disciples du Christ doivent subir la même hostilité que celle qui s'est manifestée envers leur maître. Quiconque perçoit le caractère repoussant du péché et, par la force qui lui vient d'en haut, résiste à la tentation, suscitera sans aucun doute la colère de Satan et de ses sujets. La haine des purs principes de la vérité, les accusations et la persécution de ceux qui en sont partisans, existeront aussi longtemps que le péché et les pécheurs. Il ne peut y avoir aucun accord entre les disciples du Christ et les serviteurs de Satan. Le scandale de la croix n'a jamais cessé. tous ceux qui veulent vivre pieusement en Jésus-Christ seront persécutés. Sous la direction de Satan, ses agents sont constamment à l'œuvre pour confirmer son autorité et édifier son royaume en opposition au gouvernement divin. Dans ce but, ils veulent tromper les disciples de Jésus et les détourner de leur allégeance. Comme leur chef, ils tordent et pervertissent les Écritures pour atteindre leur objectif. De même que Satan tenta de jeter le blâme sur Dieu, de même ses agents cherchent à calomnier le peuple de Dieu. L'esprit qui mit à mort le Christ pousse les méchants à détruire ses disciples. Tout cela avait été annoncé dans cette première prophétie de la Bible. « Je mettrai de l'hostilité entre toi et la femme, entre ta descendance et sa descendance. Cela durera jusqu'à la fin des temps. » Satan rassemble toutes ses forces et jette toute sa puissance dans la bataille. Pourquoi ne rencontre-t-il pas de plus grande résistance? Pourquoi les soldats du Christ sont-ils si endormis et si indifférents? C'est parce que leur communion avec le Christ manque de réalité, c'est parce qu'ils sont si dépourvus de son esprit. Le péché ne leur apparaît pas comme repoussant et odieux, comme il l'était pour leur maître. Ils ne l'affrontent pas, comme le faisait le Christ, avec une résistance décisive et déterminée. Ils ne sont pas conscients de l'effrayante nocivité et malignité du péché, et ils sont aveugles à la fois au caractère et à la puissance du prince des ténèbres. Il existe peu de résistance contre Satan et son œuvre à cause de la profonde ignorance concernant sa puissance, sa malice et l'immense étendue de sa controverse contre le Christ et son Église. Des foules de gens sont dans l'erreur sur ce point. Elles ignorent que leur ennemi est un puissant général qui domine l'esprit des mauvais anges. À l'aide de plans soigneusement conçus et de mouvements habiles, il fait la guerre au Christ pour empêcher le salut des âmes. Parmi ceux qui professent être chrétiens, et même parmi les prédicateurs de l'Évangile, on entend rarement parler de Satan, sauf peut-être pour en faire une mention occasionnelle du haut de la chair. Il ferme les yeux sur les preuves de son activité incessante et de ses succès. Il néglige les nombreux avertissements donnés sur sa subtilité. Il semble ignorer jusqu'à son existence. Tandis que les hommes demeurent dans l'ignorance de ses ruses, cet ennemi vigilant est sur leurs traces à chaque instant. Il s'insinue dans chaque coin de nos foyers, dans chaque rue de nos villes, dans les églises, dans les assemblées législatives, dans les tribunaux, troublant, trompant, séduisant, ruinant partout l'âme et le corps des hommes, des femmes et des enfants, divisant les familles, semant la haine, les rivalités, les conflits, la sédition et le meurtre. Et le monde chrétien semble considérer ces choses comme si elles étaient voulues de Dieu et comme s'il était normal qu'elles existent. Satan cherche continuellement à vaincre le peuple de Dieu en renversant les barrières qui le séparent du monde. L'ancien Israël avait été entraîné dans le péché en s'aventurant dans des associations interdites avec les peuples païens. C'est d'une manière semblable que s'égarent les membres de l'Israël moderne. Leur intelligence a été aveuglée par le Dieu de ce monde, de sorte qu'ils ne voient pas resplendir la bonne nouvelle de la gloire du Christ, qui est l'image de Dieu. Tous ceux qui ne sont pas délibérément disciples du Christ sont serviteurs de Satan. Le cœur non régénéré entretient l'amour du péché et a tendance à le chérir et à l'excuser. En revanche, dans le cœur régénéré se trouve la haine du péché et une résistance déterminée contre celui-ci. Lorsque les chrétiens choisissent la société des impies et des incrédules, ils s'exposent à la tentation. Satan se dissimule et, subrepticement, ferme leurs yeux par ses tromperies. Ils ne se rendent pas compte que ce genre de compagnie est conçu pour leur causer du tort. Et, tout en ressemblant de plus en plus au monde en caractère, en parole et en action, ils sont de plus en plus aveuglés. La conformité aux coutumes du monde convertit l'Église au monde. Elle ne convertit jamais le monde à l'Église. La familiarité avec le péché amènera inévitablement celui-ci à paraître moins repoussant qu'il ne l'est vraiment. Celui qui choisit de s'associer aux serviteurs de Satan cessera bientôt de craindre leur maître. Lorsque, en accomplissant notre devoir, nous sommes précipités dans une épreuve, comme le fut Daniel à la cour du roi, nous pouvons être certains que Dieu nous protégera. Mais si nous nous plaçons nous-mêmes sur le terrain de la tentation, nous tomberons tôt ou tard.
Le tentateur œuvre souvent avec le plus de succès par l'intermédiaire de ceux dont on soupçonne le moins d'être sous sa domination. On admire et on honore ceux qui possèdent des aptitudes et de l'instruction, comme si ces qualités pouvaient compenser l'absence de crainte de Dieu ou donner droit à ces hommes de bénéficier de sa faveur. les talents et la culture, considérés en eux-mêmes, sont des dons de Dieu. Mais lorsqu'ils remplacent la piété, au lieu de rapprocher l'âme de Dieu, ils l'en éloignent et deviennent une malédiction et un piège. Beaucoup de gens supposent que tout ce qui semble être de la courtoisie ou du raffinement ne peut, dans un certain sens, provenir que du Christ. C'est commettre une très grande erreur. Il est vrai que ces qualités doivent être l'ornement du caractère de tout chrétien, car elles peuvent exercer une puissante influence en faveur de la véritable religion. Mais elles doivent être consacrées à Dieu, sinon elles deviennent aussi une force pour le mal. Bien des hommes à l'intelligence raffinée et aux manières agréables, qui ne s'abaisseraient pas à ce qui est communément considéré comme un acte immoral, ne sont que des instruments perfectionnés entre les mains de Satan. Le caractère insidieux et trompeur de leur influence et de leur exemple fait d'eux des ennemis plus dangereux pour la cause du Christ que ceux qui sont ignorants et incultes. Par la prière fervente et par sa dépendance de Dieu, le roi Salomon avait obtenu la sagesse qui provoqua l'étonnement et l'admiration du monde. Mais lorsqu'il se détourna de la source de sa force et se mit à compter sur lui-même, il devint la proie de la tentation. Alors, les merveilleuses facultés qui avaient été accordées au plus sage de tous les rois firent de lui un agent efficace de l'adversaire des âmes. Tandis que Satan cherche constamment à aveugler les esprits à cet état de fait, que les chrétiens n'oublient jamais que ce n'est pas contre le sang et la chair que nous luttons, mais contre les principats, contre les autorités, contre les pouvoirs de ce monde de ténèbres, contre les puissances spirituelles mauvaises qui sont dans les lieux célestes. Ces avertissements inspirés retentissent à travers les siècles. Soyez sobres, veillez. Votre adversaire, le diable, rôde comme un lion rugissant, cherchant qui dévorer. Revêtez toutes les armes de Dieu afin de pouvoir tenir bon devant les manœuvres du diable. Depuis l'époque d'Adam jusqu'à la nôtre, notre grand ennemi a utilisé sa puissance pour opprimer et détruire. Il se prépare maintenant à sa dernière campagne contre l'Église. Tous ceux qui cherchent à suivre Jésus se trouveront en conflit avec cet ennemi implacable. Plus fidèlement le chrétien imitera le divin modèle, plus sûrement il deviendra la cible des attaques de Satan. Tous ceux qui sont activement engagés dans la cause de Dieu, voulant démasquer les tromperies du malin et présenter le Christ devant les hommes, pourront joindre leur témoignage à celui de Paul, dans lequel il parle de servir le Seigneur en toute humilité, dans les larmes, au milieu des épreuves. Satan assaillit le Christ de ses tentations les plus furieuses et les plus subtiles, mais il fut repoussé lors de chaque conflit. Ses batailles furent livrées en notre faveur. Ses victoires nous rendent la victoire possible. Le Christ accordera la force à tous ceux qui la recherchent. Personne ne peut être vaincu par Satan sans y consentir. Le tentateur n'a aucun pouvoir de dominer la volonté, ni de forcer une âme à pécher. Il peut affliger, mais il ne peut corrompre. Il peut causer de l'angoisse, mais aucune souillure. Le fait que le Christ a remporté la victoire doit inspirer à ses disciples le courage de livrer vaillamment bataille au péché et à Satan.